Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre avec Anne Michaels. Bienvenue à vous, Anne. Je suis ravie de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je salue Valentine Leys qui va être votre interprète. Nous allons donc évoquer votre dernier livre. C'est un roman qui est paru cette année, à la fois au Canada, aux États-Unis et en France, aux éditions du Sous-Sol, dans une traduction de Dominique Fortier. Vous êtes poétesse, vous êtes romancière, vos livres ont été traduits dans plus de 45 langues, vous avez remporté un certain nombre de prix internationaux. Et Étreinte est d'ailleurs dans la shortlist, le dernier carré du Booker Prize cette année. Alors Étreinte, je le présente en quelques mots, c'est un roman qui nous offre un moment de lecture très singulier, c'est un récit à la forme éclatée. Il se compose de 12 chapitres qui, chacun, portent le nom d'un lieu et une année. Nous sommes entre l'Angleterre et la France. Nous partons parfois plus à l'est. Nous commençons en 1917, nous traversons le siècle pour à la fin même aller au-delà du présent en 2025. L'eau n'est jamais loin, nous en reparlerons. Je parlais des paysages de ce roman. Ces lieux, donc, qui sont souvent dans la proximité immédiate des fleuves, des rivières, des rivages. Un des paysages qui revient le plus souvent, c'est la mer la nuit avec la lumière de la lune. La chronologie se brise assez rapidement. Il y a un certain nombre de flashbacks. C'est un récit sur 4 générations avec des histoires qui s'entremêlent, où il y a des points de contact par le retour de certains personnages, tout simplement, le retour de certains motifs, mais rien n'est appuyé. On reparlera de cette structure. Il n'y a rien d'édifiant là-dedans. On est plus du côté de l'ellipse, du détail ténu, mais scintillant. Et vous nous parlez de beaucoup de choses dans ce roman. Dans ce livre, il y a des liens et des histoires qui unissent des hommes et des femmes, des amis, des parents et des enfants. Vous nous parlez de la guerre, quand on y est et quand on vit après elle. Vous nous parlez de l'amour et de ses frontières qui semblent inconnues. Vous nous parlez de la fuite, de ce que c'est que se sauver. Vous nous parlez de photographie, de science, de nos vies fugaces, de nos morts et de nos fantômes qui viennent chercher nos étreintes. Et je ne compte pas les images très marquantes dans ce livre, puisque c'est un roman qui travaille aussi le motif de l'apparition et de la disparition. Et bien sûr, ça, c'est lié à la rencontre, c'est lié aux étreintes, c'est lié à l'amour. Alors, après cette introduction chaotique, mais vous êtes restés, vous êtes là. Je vais poser ma première question. Je voulais repartir avec vous du début. C'est un roman qui s'ouvre sur la guerre. Nous sommes à Cambrai, en France, près du fleuve Escaut, en 1917. Et c'est un motif que l'on va retrouver à plusieurs reprises dans ce roman, La guerre. Dans un passage très marquant, vous évoquez là où tombe la guerre et depuis où on la raconte. Je vais citer ces passages, cet extrait. Vous écrivez ceci, pour l'historien, tous les champs de bataille sont différents. Pour le philosophe, tous les champs de bataille se ressemblent. La guerre a sans cesse redéfini le champ de bataille. Nous ne prétendons plus nous battre sur des terrains désignés, mais reconnaissons le substrat essentiel où la guerre a toujours été livrée, exactement où nous vivons, exactement là où nous avions toujours cru être à l'abri, même d'une façon sacrée. Et à la fin de ce passage, il y a cette phrase « Et même s'il est possible de revenir dans la ville qui est la nôtre, même si l'on n'est jamais parti, cette histoire, donc de la guerre, sera racontée comme elle a toujours été, à partir d'un lieu loin de chez soi. » Je voulais savoir, si l'écriture de ce roman a aussi commencé par là, par la guerre, par ce motif-là. Est-ce que ce motif de la guerre a même eu un impact sur la forme du roman, sur sa tonalité ?
Thank you very much, and I want to say, first of all, thank you all very much for being here, gathering together today. Very, very grateful.
D'abord, je voudrais vous remercier tous d'être là ici, réunis aujourd'hui. Je suis très contente et très reconnaissante.
And I want to say that we are starting appropriately at the First World War, and our friend, our dog, who is accompanying us today is actually very appropriate because the book also talks about how in the trenches the soldiers would befriend the stray dogs. And one character in this novel who you meet only at a glance took very great comfort clutching the fur of the dog to try and help him sleep in the mornings because they slept in the daylight, which he said was, one of the most inhuman things to have to sleep during the day, even within that horror.
Eh bien, je voulais, pour parler de la Première Guerre mondiale, en fait, c'est tout à fait adapté, en fait, qu'est cette notre ami le chien qui nous accompagne aujourd'hui, puisque le chien apparaît dans le livre. Il y a une scène au début dans les tranchées où on voit que les soldats qui sont en train de combattre deviennent amis avec des chiens errants et les adoptent et les gardent après auprès d'eux pour trouver du réconfort en les caressant et en les tenant près d'eux. Et donc il y a ce personnage qui, en particulier, qui s'attache à un chien et qui est très content d'avoir ce chien parce que le matin, parce que ils doivent dormir pendant la journée en fait. Et donc pour lui, pour ce personnage, le plus inhumain, c'est pas toutes les horreurs qu'on lui inflige pendant la guerre, c'est le fait de devoir dormir la journée. Et son chien, avoir la compagnie de ce chien, l'aide à mieux dormir.
And I want to thank you for that very excellent question. The structure of the book in itself, I wanted to be proof of something.
Alors, c'est une excellente question. En fait, pour moi, la structure du livre, elle a été conçue pour prouver quelque chose.
And of course, war has been haunts everything that I have written. And that everything I've written has been a form of witness.
La guerre, c'est un thème qui hante toutes les choses que j'ai écrites. Et tout ce que j'ai écrit, ça a été une manière de porter un témoignage là-dessus.
And I wanted very much to look at mortality itself. Our own mortality is one of, I think, the human species, our most profound insight our insight about our own mortality.
Ce qui m'intéresse dans ce thème, c'est que ça me permet de regarder la question de la mortalité. Notre mortalité, pour l'espèce humaine, c'est la compréhension la plus importante que nous ayons sur notre condition.
And this book wants to know if there is any consolation to be found in mortality. And if so, what is that consolation? What does that consolation feel like?
Et la question que pose le livre, c'est est-ce qu'on peut trouver une consolation dans la mortalité ? Et si cette consolation existe, qu'est-ce qu'elle est et comment est-ce qu'on peut la trouver ?
And so the characters, as you say, the book spans a century and dives in to a moment and surfaces in a moment decades later, many decades later, and moves back and forth in time. And these moments are all extremely intense. Some of them are silent. Some of them are a gesture. Some of them have a word associated with them, or a sentence. But in each case, we understand how we are all connected through time. And how we are both haunted, and how love continues its work past the span of a single life.
Et donc, comme vous l'avez dit, le livre donc se déploie sur un siècle entier, et à chaque fois, donc c'est dans la structure du livre, on va s'immerger, plonger dans un moment dans le temps, et ensuite refaire surface dans un autre moment qui pourra se produire des décennies plus tard. Et donc on voyage comme ça dans tous les sens, à travers le temps. Et les moments sur lesquels je m'arrête sont à chaque fois des moments de grande intensité, qui peuvent être des moments qui se résument à un silence, ou à un geste, ou à un mot, ou à une phrase. Et chaque moment sont des moments où on perçoit comment nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers le temps, comment nous sommes hantés par quelque chose, et comment l'amour se prolonge et traverse le temps au-delà des existences individuelles.
And also, in terms of war, an abiding investigation for me is that, as I've said many times, that there's nothing that a man will not do to another, and nothing a man will not do for another.
Et pour le thème de la guerre, une grande question que je me pose et que je travaille, c'est l'idée qu'il n'y a rien qu'un homme serait incapable de faire à un autre homme, mais il n'y a aussi rien qu'un homme serait incapable de faire pour un autre homme.
Pour rebondir sur à la fois sur la question du témoignage, nous avons le personnage d'Alan un peu plus tard dans le livre, qui est reporter de guerre et d'ailleurs qui témoigne d'une forme d'écœurement à pratiquer son travail, en fait, à parler de la guerre, à parler de ce que c'est, de ce que ça fait aux gens. Mais il y a un autre passage sur lequel je voulais vous interroger, sur le rapport comme ça entre les mots et la guerre. C'est le moment où le personnage de John, donc celui qu'on rencontre pendant la Première Guerre mondiale, qui, après la guerre, rentre le corps meurtri et craint, et ça le fait sangloter, craint à plusieurs reprises de ne pas être rentré indemne de la guerre. Et il y a ces moments très forts où il dit, si j'arrive à formuler ces mots-là dans ma tête, à les prononcer, alors je suis intact. Et les mots, ici, semblent quand même être un rempart face à cette expérience traumatique. Est-ce que vous pouvez reparler de ce rapport au langage ici?
There's a scene for me which touches on this absolutely and is just to me the heart of the book.
Selon moi, il y a une scène qui vraiment touche précisément sur ce point et qui, selon moi, est vraiment le cœur du livre.
And you mentioned the character of Alan, who is a journalist in war zones, and he is married to Mara, who is a doctor who also works in conflict zones. And Mara asks him a question. They're lying together at night and talking, and Mara asks, here, maybe I'll just read the passage.
Let me say it before you. Donc cette scène, c'est une scène où donc on a ce personnage d'Alan, comme vous avez dit, qui est journaliste correspondant de guerre, et il est marié à une femme qui s'appelle Mara, qui est médecin et qui elle aussi travaille dans des zones de conflit. Et Mara lui pose une question à un moment quand ils sont couchés ensemble dans leur lit la nuit. Et donc je vais vous lire le passage en question.
And this is a question that's crucial to Mara. Do you think it's possible, Mara asked, for good to survive long enough, to outlast, to wait, to endure, while evil consumes itself? And Alan, who is marked himself, struggling with his own despair, says no. But then he looks at her. He knows that with all his soul, he loves her. And it is a very different thing to think about someone else's despair rather than your own. And then he says, maybe. And this journey from no to maybe is very, very much at the core of this book. And it's difficult to go from no to yes. But at least we could try to go from no to maybe.
Donc c'est une scène, tu l'as retrouvée ?
Je crois, c'est « Penses-tu que c'est possible ?» demanda Mara, « que le bien dure assez longtemps pour survivre, pour attendre, pour subsister, tandis que le mal se consume. » Et en effet, d'abord, il répond non, et ensuite, il répond peut-être. Je crois que c'est ce passage.
Oui, c'est ça. Et donc, cette évolution, ce parcours, passer du non au peut-être, c'est ce qui est vraiment au cœur du livre, au centre du livre. Évidemment, il est très difficile de passer d'un non à un oui, mais peut-être qu'au moins, on peut essayer de passer d'un non à un peut-être.
Merci. Pour continuer à parler d'autres aspects de votre livre, très tôt dans le livre, il est question des histoires et de leur transmission, et de leur transmission fragile, précaire. À la fois fragile, mais aussi, vous nous le dites, il y a quand même aussi quelque chose d'invincible. Ce qu'on a donné, personne ne peut nous le reprendre, je crois que c'est une des phrases du livre. Et j'ai l'impression que dans le roman, il y a plusieurs moments comme ça, où on est à la fois dans quelque chose de fragile et d'invincible. C'est tous les moments où il est question de l'amour et de... cette chose que vous décrivez comme quelque chose d'inouï, qui est de rencontrer simplement la personne qu'on aime. J'ai l'impression que ce livre essaie d'attraper, d'étreindre justement ces moments inouïs de la rencontre, qui sont à la fois très fragiles, mais aussi très très forts.
This book wants to find a different measure for history. We are used to thinking about history in terms of events, actions, but history is also our inner lives, what we value, what we aspire to, what we believe in. This notion of history being made by what we aspire to is something very, very important to this book. There is a way in which each encounter we are trying to understand all the forces that bring us to a present moment, and all the ways that we choose, and all the ways that are beyond our choosing.
Donc ce livre, en fait, il cherche à trouver une conception différente de l'histoire. On a l'habitude de concevoir l'histoire comme quelque chose qui est fait d'une succession d'événements et d'actions et de faits. Mais l'histoire, ça peut être aussi quelque chose qui touche à nos vies intérieures, à nos valeurs, aux choses auxquelles on aspire, aux choses auxquelles on croit. Et donc cette idée selon laquelle l'histoire, elle est aussi faite de toutes les choses auxquelles on aspire, elle est très importante pour ce livre. Et je pense que chaque rencontre qui apparaît dans le livre, pour chaque rencontre qui apparaît, il s'agit de comprendre toutes les différentes forces qui nous construisent et qui nous amènent vers le moment présent.
And the way in which these connections can seem tenuous, exactly in the same way they are very powerful. And so when we feel the resonance of something that happened, you know, a century before, and it's in the smallest gesture, the smallest recognition, it's extremely powerful. And this book is interested in this whole notion of invisibility, of things that cannot be proven.
Et donc, ces connexions, ces liens qui se font, ils peuvent sembler très, très ténus, très fragiles, et en même temps, ils sont aussi très puissants. Et il peut arriver, par exemple, qu'on ressente l'écho, la résonance d'une chose qui s'est produite un siècle plus tôt et qui se manifeste dans des tout petites choses, un petit geste, une petite chose qu'on reconnaît. Et en même temps, tout ça peut avoir un effet très puissant. Et donc, ce livre, il parle comme ça de choses qui sont invisibles, mais qui sont très puissantes à la fois.
And it starts very deliberately during the First World War. Because the end of the 1900s, the beginning of the last century, something very significant happened in terms of science and science's disruption of the narrative of invisibility. We discovered electrons, X-rays. We began for the first time to manipulate the invisible world. And when that happened, we were displacing a very, very ancient, our very ancient relationship to that invisible world. And this book wants to try to assert a value for what can't be proven, by its very nature cannot be proven. So this notion of how we are connected and how moments can be joined through time and through generations is very connected to this notion of invisibility.
C'est pas par hasard si le livre commence au moment de la Première Guerre mondiale. C'est une époque charnière, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, où il se passe quelque chose d'essentiel dans les sciences, où d'un seul coup, notre rapport à l'invisible est complètement transformé. On commence à découvrir les électrons, les rayons X, et on commence à pouvoir manipuler l'invisible, tout ce monde invisible. Et donc, cette évolution, elle a vraiment déplacé, décalé cette relation très ancienne qu'on avait aux choses invisibles. Et donc, ça a complètement transformé la perception qu'on avait de ce qui pouvait être prouvé ou de ce qui ne pouvait pas être prouvé. Et donc, c'est un moment où on comprend qu'il y a des choses, des choses qui font qu'on est connecté, qui font que des moments peuvent entretenir un lien à travers les époques et à travers le temps. Tout cela peut exister dans quelque chose d'invisible.
And this, the First World War, and this beginning of manipulating the invisible world, and this conflation of science and technology, which are two separate things, which we now absolutely conflate, was also at the same time as a rise of spiritualism, the whole spiritualist movement, which was completely understandable because the First World War, the scale of death, absolutely unknown to that moment, the scale of death, meant that now suddenly there were so many ghosts in the world for people. And that presence is another thing that's I'm trying to bring into the same moment to have us think about it at the same time.
Et donc, pendant à cette époque de la Première Guerre mondiale, cette époque donc, où on se met à manipuler l'invisible, où s'opère cette fusion entre science et technique, qui sont deux choses distinctes mais qui vont être fusionnées, c'est aussi l'époque où émerge le mouvement du spiritisme. Ou du spiritisme peut-être, où on se met à s'intéresser au monde des esprits. Et ça s'explique très bien par le fait que l'échelle des tueries pendant la Première Guerre mondiale, il y a tellement eu de gens qui ont été tués, que d'un seul coup, le monde se retrouve rempli de fantômes. Il y a tous ces fantômes qui apparaissent dans le monde. Et cette présence de tous ces fantômes, c'est quelque chose qui traverse aussi le livre à travers ce récit de la guerre.
Alors pour justement parler de ces fantômes, de cet invisible qui est très présent dans le roman, le personnage de John, après la guerre, quand il rentre, il retrouve Elena et il va ouvrir un studio de photos. Et vous parlez de deux choses. D'abord, vous parlez de l'empressement des clients à venir se faire photographier en famille, souvent. On est alors en 1920, donc on est vraiment juste après la guerre et les retrouvailles, s'il y en a eu. Il y a donc l'empressement des clients, mais il y a aussi l'empressement justement de certains fantômes. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe ? Qu'est-ce que John va découvrir quand il va développer certaines photos ?
Well, it's again the bringing together of what's invisible and what's visible. And so these figures that rise out of the photographs, there is the, it's never said outrightly, but there's the very strong suggestion that his assistant, who's working for him, is in fact manipulating the photographs. And John is in a fragile state of mind. He doesn't know. This has been done very cleverly, and he doesn't understand that the plates have been exposed twice, and that his assistant, in fact, may be behind the appearance of these figures, because this was could have been very, very lucrative, because people were immensely consoled by the use of these spirit photographs, which seemed to bring back evidence of their family members. And so this could be a very lucrative thing, and the assistant wants to, perhaps, there's a suggestion that the assistant is trying to manipulate this for profit. But for John, it is an absolute crisis of his soul. And so what happens to him when he sees these figures appear, that's a very, very interesting part of this story, and I don't maybe want to reveal too much right now, but there, the book never says whether the assistant has done this or not, and so there's a suggestion. It's more important how John responds than whether, in fact, such a photograph could be.
Encore une fois, dans ce passage, il s'agit de quelque chose qui réunit le visible et l'invisible. Donc ce qui se passe en fait avec ces photos, c'est qu'en développant les photos, en révélant les photos, on voit qu'il y a des personnages, ces figures qui apparaissent sur les images aux côtés des gens qui ont été photographiés. Et il n'est jamais dit explicitement dans le livre, mais c'est suggéré que c'est peut-être l'assistant de John qui a manipulé les photos en faisant une double exposition. Et donc en faisant apparaître des fantômes sur ces plaques. Et John, à ce moment-là, il est dans un état d'esprit très, très fragile, très vulnérable. Il ne comprend pas ce qui a pu se passer. Mais évidemment, l'idée que peut-être a eu l'assistant de John, c'est que ça peut être potentiellement une idée très lucrative, parce que les gens, effectivement, après la guerre, ils sont extrêmement consolés par le fait de voir apparaître ces fantômes des êtres aimés qu'ils ont perdus pendant la guerre. Et donc, il y a eu tout un engouement pour la photographie spirit, comme ça. Et donc, voilà, il y a toute cette ambiguïté qui reste. Et John, donc, lui, face à ça, il est vraiment dans un état de crise profonde. Le plus important, finalement, c'est pas de savoir si c'est un coup monté par l'assistant ou pas, mais de voir comment John réagit à ça et la crise que ça suscite chez lui.
And John himself, because this is a time when science is really beginning to discover the invisible, and he mentions science experiments in which invisible currents are shown to be acting, to be active, to be real, he has the link in his own mind. Is this possible? Is this scientifically possible for the dead to reach us in this way? And so this notion of consolation is so tender to me. And the notion of consolation and false consolation. And one has to wonder, is there such a thing as false consolation?
Et donc, comme on est dans cette époque, dans le temps, où la science est en train de découvrir l'invisible, qu'il y a des expériences scientifiques qui prouvent, par exemple, que le courant électrique est invisible, mais qu'il est réel, John, lui, dans sa tête, il se dit, après tout, peut-être que scientifiquement, c'est possible que les morts puissent communiquer avec nous et nous atteindre. Et je suis très attachée, pour moi, c'est un point très sensible, cette notion de consolation. Et de fausses consolations. Et après tout, est-ce que ça existe, une fausse consolation ?
Justement, je voulais parler de la réaction, en fait, des différentes réactions à cette idée que surgirait comme ça un mort sur une photo. Parce que il me semble que c'est intéressant aussi dans ce passage-là. John propense et écrit à un scientifique, Rutherford, qui lui-même étudie un petit peu la question. Donc il y a une curiosité scientifique pour cette question-là. Et quand on pense aux gens qui viennent se faire photographier et à qui on montre justement cette photo, alors est-elle truquée ou pas ? En tout cas, apparaît comme ça une autre silhouette. Et un des premiers clients dit « Ah, c'est ma mère, elle est venue me dire au revoir. » Donc il y a là aussi une forme d'acquiescement. En tout cas, il n'y a pas un rejet. Et je me demandais si vous vouliez là signifier qu'il y a quelque chose là, finalement, de familier, un peu lointain, mais qui nous était peut-être plus familier il y a des siècles. Une espèce de lien ancestral comme ça avec ce qui est perdu, avec nos morts. Est-ce que ça allait jusque-là, votre réflexion?
Yes, absolutely. And because this is wartime and that war, the shock of the scale of it, everyone lost someone, and so there was a need to try and understand it. Also, so sudden, the shock of it on that scale, and so this and this. Yes, I mean it's the most ancient impulse. I've written before about, you know, when was the first garden planted? Maybe the first garden was planted at a grave. We need to understand the meaning of mortality. We live in a time now where there's so much that is materialist, and science is driving a way of thinking about things that is relentlessly materialist. But I'm not disputing all the things that science can prove. I'm only suggesting that we allow for the value of what cannot be proven.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, au moment de la Première Guerre mondiale, le choc a été tel, et l'échelle, le nombre de morts et la soudaineté aussi de toutes ces morts, tout le monde a perdu un proche, tout le monde a perdu quelqu'un. Et face à ça, les gens vraiment ont eu ce besoin de chercher à comprendre, et qui les a peut-être ramenés à ces impulsions, ces tendances très, très ancrées, très anciennes. C'est quelque chose que j'ai écrit ailleurs il y a un certain temps, la question de quand est-ce que le premier jardin a été planté, et la réponse c'était sur une tombe. Je pense que c'est un besoin qu'on a toujours de chercher à comprendre la signification de la mortalité. Aujourd'hui, on vit dans une époque qui est très matérialiste, où la science a vraiment introduit une manière de penser qui est très matérialiste. Et je ne mets pas en question toutes les choses que la science est capable de prouver. Par contre, j'aimerais qu'on attache aussi de la valeur aux choses que la science n'est pas capable de trouver.
And there's just something very defiant in the notion of a ghost, because a ghost does not belong to the past or the future. A ghost is always belongs to the present.
Il y a quelque chose de très un défi dans ce qu'est un fantôme, parce que un fantôme, il appartient ni au passé ni à l'avenir. Le fantôme appartient toujours au moment présent.
Je voulais revenir peut-être sur la forme du livre. Je le disais, c'est une forme éclatée. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a des choix assez paradoxaux, mais qui font vraiment notre plaisir de lecture. Il y a le fragmentaire, je le disais. Il faut savoir que dans ces chapitres, en fait, nous avons plutôt des paragraphes séparés par des petites étoiles. À côté de ce côté fragmentaire, il y a ce motif de l'eau qui est très très présent dans presque tous les titres de chapitres. Il est question de fleuves, de rivières, de rivages. Et forcément là, on est du côté de quelque chose de continu, d'un passage comme ça, incessant. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons pour lesquelles cette forme s'est imposée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié, notamment sur le côté fragmentaire, à la photographie, qui est quand même très très présente dans le livre? Est-ce qu'il y a cette idée d'apparition, de flash, de...
When I began writing this book, I knew it would take a very long time to write, and I knew from the start that it would be written in this way, and I had a sense of the fragments, at least some of them, but no idea how they connected, except I knew deeply they were connected. This book has taken a great deal of research in many areas. History and philosophy of science, evolutionary biology, consciousness, history. And I wanted that research to be not overt, again, another form of invisibility, to be under the surface, just glinting at the edges. Because there is tremendous distillation in this book. And when you distill, you can say, well, this is what you've left out. But in a sense, nothing gets left out, because it is still a presence there. So the connection to the rivers in each section, I'm glad that you raised that. Because there's a way in which, when you are thinking this way, with this fragmentation, which you know proves a connection, but you have to dig and dig and wait patiently to understand the connection. It is fascinating for me that over 20 years I could come back exactly to find myself writing again a sentence I had written 20 years before, and at that moment I understand I am exactly, I have gone deep enough to that connection where everything is connected. And of course, that's what water does.
Quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai su tout de suite qu'il allait me prendre très longtemps à écrire. Et je savais qu'il allait être écrit sous cette forme-ci, c'est-à-dire sous la forme de fragments. Et ces fragments, je les voyais, ils me venaient, mais je ne savais pas encore comment ils allaient se connecter. Je savais qu'il y avait une connexion entre eux, mais je ne savais pas encore comment les connecter. En écrivant, j'ai fait beaucoup de recherches sur tout un tas de domaines différents, l'histoire, la philosophie, la science, la biologie, etc. Et toutes ces thématiques, et donc cette thématique de l'eau, elle est restée sous la surface. Mais donc j'avais beaucoup de matériaux et finalement il s'agissait de distiller, de distiller toute cette matière. Évidemment, on pourra avoir l'idée que quand on distille, il y a des choses qui vont disparaître, mais en fait elles restent toujours présentes sous la surface. Et en effet, je suis contente que vous remarquiez qu'il y a les rivières, les fleuves qui apparaissent dans chaque section. Il s'agissait vraiment donc d'écrire ces fragments et de comprendre par la suite une connexion. Et donc j'écrivais et je savais qu'il allait falloir que j'attende patiemment que le lien il émerge et qu'il apparaisse à la surface. Et parfois, ça m'arrivait, après 20 ans, d'écrire une phrase et de m'apercevoir que je l'avais déjà écrite 20 ans plus tôt. Et c'était à ça grâce à cela que je m'apercevais qu'il y avait un lien profond entre différents fragments et différents éléments du livre.
Et sur la question de la photographie qui est très présente dans ce livre, est-ce que vous pouvez nous reparler de cette inspiration-là?
Photography was a good place to begin here in this conversation because in the book, because it unites science and art and science and how we perceive the world. So it allowed for John to be technical-minded, to look at the technical chemical aspects of something very abstract. And this interests me very much in everything I do, because the physical world is how we talk about what's abstract. You cannot understand an abstraction by speaking in an abstraction. So we must speak always in terms of the concrete, the physical. And so it made sense, very much sense, that this character would be thinking in terms of chemistry when he is also confronting something at the heart of the mystery of things. And I want to make a distinction between mysticism, which is not what this book is interested in, but mystery.
La photo, je trouvais que c'était un bon point de départ pour cette conversation parce que c'est quelque chose qui réunit la science et l'art. La science et notre perception du monde. Et donc John, c'est un personnage qui, à la fois, donc, a un esprit très technique, qui s'intéresse aux aspects chimiques de la photographie et à toute cette technique, et en même temps qui s'intéresse à des choses très abstraites. Et je considère que finalement la physique, c'est la seule manière que nous avons de parler de choses qui sont très abstraites et qui seraient incompréhensibles, de puiser dans le concret, dans le monde physique, pour comprendre des notions très abstraites. Donc ça me paraissait logique que ce personnage, John, soit à la fois donc intéressé par la chimie et à la fois par le mystère des choses qui l'entourent. Et je trouve ça important de distinguer entre le mysticisme, c'est pas de mysticisme qu'il s'agit dans le livre, mais du mystère des choses.
Il y a une autre scientifique qui apparaît à la fin du livre, c'est Marie Curie. Je voulais savoir dans quelle mesure vous connaissiez, avant l'écriture de ce livre, sa vie. Est-ce que c'est quelqu'un dont la vie, le travail, vous étiez familier ou est-ce que vous avez fait des recherches pour écrire ce passage-là, qui est un autre des passages marquants de ce livre?
I was familiar with her life, we come back to invisibility in a sense again, because what I wanted to reveal was her not only as a scientist but as a woman, and not just she's a woman in science, but as a woman, as a mother, and also as this very profound friendship that she had with a British mathematician and physicist, Herta Ayrton, who was her closest friend. And that the friendship there was something I wanted to reveal, and allow that friendship in turn to reveal something bigger than itself. This Herta character, real person, was very interesting. She was a suffragette, a fighter for women's rights. She took care of people, and she rescued Marie Curie at a very important moment in her life. So it was important to me that we understand the intimacy between those women and their children, and what it means to work as all women do in the middle of the night when the children are asleep.
Oui, je me suis beaucoup intéressée à la vie de Marie Curie, et ici aussi, il s'agit de quelque chose qui touche à l'invisibilité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de révéler Marie Curie à la fois en tant que scientifique et en tant que femme. Et ce qui m'intéressait, c'était pas de l'évoquer en tant que femme qui fait de la science, mais plutôt en tant que femme et en tant que mère. Un autre aspect de ce personnage qui m'intéressait, c'était la profonde amitié qui la lie avec donc sa meilleure amie, qui est une mathématicienne et une physicienne britannique. Donc c'était deux amies très proches, et ça m'intéressait de révéler aussi l'amitié entre ces deux femmes, et dans quelle mesure cette amitié révélait aussi quelque chose de plus vaste. L'ami de Marie Curie, c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant. C'est une femme qui était une suffragette, qui se battait pour le droit de vote des femmes, qui a pris soin de beaucoup de personnes, qui a vraiment soutenu Marie Curie dans des moments très importants de sa vie. Et je trouvais ça très important de comprendre l'intimité entre ces deux femmes et aussi entre leurs enfants, et de comprendre ce que ça veut dire pour une femme de travailler la nuit pendant que ses enfants sont en train de dormir et d'essayer de faire avancer son travail.
Il y a un dialogue très très bref et assez mystérieux entre justement Marie Curie et cette amie Herta. Je crois que c'est Marie Curie qui lui demande « À quoi penses-tu ?» Et elle répond à la force. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce mot-là de force. Qu'est-ce qu'il faut entendre ici, dans ce mot-là ?
J'essaie de retrouver le passage.
They have a very interesting exchange, a conversation, and it's uniting everything that is about her place in history, as well as everything that is most intimate about her life, and.
C'est une conversation très intéressante entre les deux personnages où finalement qui fait le lien pour Marie Curie entre à la fois elle réfléchit à sa place dans l'histoire et à la fois elle réfléchit à l'intimité de sa vie.
Six pages.
C'est à la toute fin du livre, apparemment.
Marie says, what are you thinking about? And Herta says, force. And Marie says, someone will get to the bottom of it someday. And Herta says, or get to the top of it. It felt good to laugh. They were still young enough yet such old friends.
Tu veux le lire?
Oui, juste, donc c'est à quoi pensez-vous, demanda Marie, à la force. Et Marie reprend, quelqu'un finira bien par faire la lumière là-dessus un jour. Et Herta répond, ou l'obscurité.
And later, a couple pages later, again, they're talking about science and the meaning of science and what meaning science allows. It says science can never determine if there is something beyond flesh and bone because inquiry is inadmissible. And Marie asks, what are you thinking about? And Herta answers, flesh and bone.
Oui, c'est un passage ça, qui se trouve quelques pages plus loin où les deux femmes parlent de la science et de la signification de la science et de à quel point la science laisse de l'espace au sens.
And in that same passage, Marie goes on to say that she wasn't thinking of the dead when she saw the first Becquerel's X-rays, the first X-rays. I didn't think of skeletons in the ground. I thought, these living bones are the beloved hand of his wife, of Becquerel's wife. They had always talked this way, a drifting conversation. Two sisters lying in bed at night, whispering in the dark.
Alors, je vais juste lire peut-être le passage où il y a de nouveau un échange. À quoi penses-tu ? Demanda Marie. À la chair et aux os, dit Herta. Et Marie reprend. Je n'ai pas pensé aux morts en voyant les rayons X de Becquerel, dit Marie. Je n'ai pas pensé aux squelettes dans la terre. J'ai pensé, ces os vivants sont la main bien-aimée de sa femme. Elles avaient toujours parlé ainsi, une conversation à bâton rompu, comme deux sœurs allongées dans un lit le soir, qui chuchotent dans le noir. Voilà, ça donnait un peu une image de cette, en effet, de cette amitié importante qui nous est racontée à la fin du livre. Nous avons quelques minutes, si vous avez des questions à poser. Il y a un micro qui va circuler. Donc, je vous en prie. Oui. Ah, il y a deux questions.
Bonjour. Pourquoi avoir nommé le livre Étreinte ? Quel est le rapport ?
Held has many meanings and layers of meanings in the book. Of course, how we hold each other. How time holds us in relationship to each other, how events are held through time. There's a passage in the book that talks directly about one of the meanings of that word. I'll see if I can find it.
Alors, le livre en anglais, il s'appelle Held, donc en français, étreinte. Alors, held, c'est plus tenu, être tenu, ce qu'on tient. Et donc, il s'agit de comment on tient les autres auprès de soi, comment le temps nous tient tous dans des liens les uns aux autres, comment les événements tiennent aussi à travers le temps. C'est un mot qui peut avoir beaucoup de signification. Et j'essaye de vous retrouver un passage qui parle d'un des sens du mot.
This is page 161. It might be worth reading this. This is another character who we haven't met yet. It's just a short paragraph. And the character's name is Leah. She knew that she and her husband had had more time at the end than most. She knew it was everything not to die alone, not to be taken brutally by force. She could never explain, she could never imagine a time when she would be able to explain all he was to her. Leah had drawn a blanket over him. She had dressed, she had made room for herself and lain down next to him. What could she give him now? She knew what he would want for her, that stillness might grow to peace, not still, held.
Ouais, alors je crois que j'ai trouvé le paragraphe. Elle savait qu'à la fin, son mari et elle avaient eu plus de temps que la plupart des gens. Elle savait que ce qui importait, c'était de ne pas mourir seule, de ne pas être pris brutalement par force. Elle ne pourrait jamais expliquer, elle ne pourrait jamais imaginer un moment où elle serait capable d'expliquer tout ce qu'il représentait pour elle. Lia avait tiré une couverture sur lui, elle s'était habillée, elle s'était fait une place et s'était allongée près de lui. Que pouvait-elle lui donner maintenant ? Elle savait ce qu'il aurait voulu pour elle, que cette immobilité puisse se métamorphoser en paix, non pas une immobilité, une étreinte. Merci. Il y avait une autre question, oui ?
Oui, vous m'entendez ? Oui, justement, j'allais vous demander quel était le titre en anglais. Donc, vous venez de répondre. Et sinon, c'est une question mineure, mais le livre porte sur 4 générations, hein, sur les décédés de la guerre 14-18 et leurs fantômes. Est-ce que c'est l'histoire de John et des 4 générations qui vont suivre dans sa famille et par ses amis ? Ou bien est-ce que c'est plus général sur l'humanité, enfin sur les gens en général après la guerre?
Exactly both.
Merci. Thank you.
Exactement les deux à la fois.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, il n'y a pas de dernière question, on est d'accord? Donc, il me reste à vous remercier, Anne Michaels. Merci, merci beaucoup. Et merci à Valentine. Et merci à vous. Il va y avoir un temps de signature. Merci beaucoup.